Il est présentement midi une minute. Vous êtes à l'émission On en jase, votre émission du midi. Analyse de l'actualité, résumé parfait. Des invités qui vous permettent justement d'en savoir plus. D'ailleurs, aujourd'hui, aux alentours de midi 45, Pierre Paulus va être avec nous. Le député conservateur du Canada pour la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Il va nous expliquer pourquoi il réclame la démission de Léna Diab, la ministre de l'Immigration. Ça continue de brasser en immigration ici au Québec et au Canada. On aura également un invité très intéressant, Éric Gingras, vers 13h25. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu la une du journal Le Soleil aujourd'hui. Mais on paye des millions de dollars au total pour des panneaux en avant de nos écoles, mais on n'est pas capable de prendre soin de nos bâtisses. On va parler de ça avec Éric Gingras, président de la CSQ. Et Mathias Turcotte sera avec nous aux alentours de 12h30. Gros dossier qu'on suit depuis le début de la semaine, Pascal CV. L'usine à Saint-Nicolas, le traitement des eaux usées à Lévis, le moratoire. Bref, on envoie 15% de notre caca à Lévis dans le fleuve.
Alors, je dis de même, mais c'est parce que c'est ça.
Ben, comme Véro Bergeron l'a dit, c'est le Flushgate.
Ben donc, oui, mais on disait ça dans le temps du maire Coderre qui avait été photographié et filmé à Montréal à côté des gros tuyaux d'égout en train de flusher le déversement de chaque citoyen dans ce coin-là, direct dans le fleuve. Après, mettons, le passage des grands voiliers, les feux sur l'eau du fleuve, la baignade, hein, ça nous tente un peu moins.
On envoie notre marde direct dans le fleuve à Lévis. Fait qu'un autre beau legs de Gilles Lehoulier.
Un legs de marde dans l'eau.
Oui, un legs de marde, ouais, c'est le cas de le dire.
Pas pleurer de rire.
Okay. Mathias va venir nous expliquer. Stephen Blaney qui se retrouve un peu entre deux chaises là-dedans. Et je m'explique, c'est qu'il ne peut pas arriver et dire « Gilles Lehoulier, c'est un tout croche parce qu'il va payer 30 millions aux entrepreneurs puis 6 millions d'amendes au ministère de l'Environnement. »
Ça s'appelle faire de la business, hein?
C'est
la politique
ça.
Aussi.
Exactement. Ça. Dans sa tête, il doit dire « s'il m'a laissé un trou de 13,9 millions, puis là, il me lègue ça. C'est un écœurant, Lehoulier. » Mais devant la caméra, il faut qu'il sourie. Puis il dit « Oh non, Gilles Lehoulier, fait un bon travail, parce que sinon, c'est les pertes immenses dans le budget de Lévis.
Ça s'appelle une gestion de crise, ça, en politique, en affaires, etc. Donc, la communication, aller faire appel à des experts pour tout sortir de la merde.
Sortir de la merde. Et voilà, exactement, c'est le très, 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 très bon terme. Donc, c'est tout ça qui vous attend à l'émission. On va finir l'émission avec Gabriel Jugard qui m'a fait un petit coucou un matin. Il m'a dit « Hey, Jeff, qu'est-ce que t'en penserais, même si je suis passé lundi, que je passe le jeudi comme d'habitude? J'aimerais ça te parler de décote puis de référendum. C'est vraiment le référendum qui fait en sorte qu'on paye 0,05% plus d'intérêt au Québec que l'Ontario sur nos prêts ou c'est notre décote? » Parce que le ministre Girard, là, j'ai un extrait, là, il a dit « Voyons donc, ça n'a jamais existé, ça. On n'a jamais fait le pire déficit de l'histoire du Québec. » On va jaser de ça avec Gab Juguère. Puis pendant ce temps-là, en plus, la Caisse de dépôt et de placement a déposé son bilan hier. 9,3% de rendement. Sont rendus à 517 milliards de dollars d'actifs. Mais l'indice de référence est à 10,9. Comment ça, Pascal? On gère mal notre argent de même au Québec. On va jaser de ça avec Gabriel Giguère, c'est certain. Meilleur moyen de nous écouter, c'est l'application BLVD. Vous téléchargez le tout sur App Store ou Google Play Store. Vous réagissez avec nous au 418-971-1021. Vous le faites toujours bien. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Également, abonnez-vous à notre page YouTube pour avoir les meilleurs moments de toutes les émissions et nos excellents podcasts. Victor Henriquez va remplacer Antonine Iaccarini dans le caucus. Mais avant, Pascal, quelles sont les principales manchettes de l'actualité?
Opération majeure pour affaiblir les activités du Blood Family Mafia, le BFM, du côté de Montmagny. Et toute une, on a arrêté des individus qui sont reliés au fugitif Tommy Bernier-Thibault. Alors, c'est une énorme frappe, une grosse opération policière. C'est toujours en cours à Montmagny. Donc, les autorités prévoient réaliser environ 6 perquisitions, une dizaine d'arrestations dans le dossier. Ce sont des infractions réprimées en matière de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, mais aussi à caractère sexuel. Alors, on va suivre ça aujourd'hui. Le RTC veut rendre sa desserte du Vieux-Québec plus efficace. Ben pourquoi? Parce que c'est demandé, mais aussi on va en avoir besoin. Donc, on a présenté hier soir des alternatives aux citoyens pour mieux desservir le secteur à l'approche de nombreuses entraves à venir, entre autres reliées au projet de tramway. face à face extrêmement tragique, hein, face à face qui a fait un mort et deux blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, la nuit dernière, c'était sur l'autoroute 20 à Lévis, en Chaudière-Appalaches, autour d'une heure du matin, où on a convoqué les services d'urgence à se rendre sur l'autoroute Jean Lesage. On disait qu'il y avait eu un violent impact en direction ouest. C'était près de l'intersection de l'avenue Taniata. Donc, automobiliste qui s'est engagé en sens inverse sur la 20 et qui a percuté de plein fouet une ambulance qui passait par là. Absolument tragique. On en reparlera également. Et je veux faire un clin d'œil sur les perquisitions dans l'enquête sur la mort de l'ado qui a été tué par un policier du côté de Longueuil. Donc, la police de Montréal qui est là-dessus. On est depuis ce matin dans plusieurs perquisitions sur les événements qui précèdent la mort de Noran Rezaï, cet adolescent de 15 ans qui a été abattu par un policier l'automne passé.
Au sport, le Canadien reçoit les Highlanders de New York ce soir au Centre Bell. C'est le retour du CH en action amateur de hockey. Et Matt Scherzer, Mad Max, un lanceur de 41 ans, Pascal, qui signe un contrat d'un an avec les Blue Jays de Toronto. Il avait très bien fait l'an passé avec les Jays. Il a décidé de revenir. 41 ans, déjà gagné des séries mondiales, puis il a dit le meilleur endroit où je joue au baseball, c'est à Toronto. Donc, décide de revenir. C'est très intéressant pour les amateurs de baseball. Place au caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Victor Henriquez en remplacement d'Antonin Iaccarini. Mon cher Victor, comment vas-tu?
Ça va très bien, et vous autres?
Ça va bien. Super bien. Victor, j'ai vu que le Bloc québécois a annoncé la candidate dans Terrebonne. C'est la même personne qui était là lors des dernières élections qui devra être reprise. Mais là, j'entends dire que Mark Carney penserait de plus en plus à faire des élections hâtives au printemps parce qu'il dit « Hey, savez-vous quoi? Ma majorité, je vais l'avoir en refaisant des élections. » Ce qui force Pierre Poilievre à faire toute qu'une annonce devant la Chambre économique de Toronto aujourd'hui.
Cette fameuse rumeur d'élection au printemps, je vais t'avouer que j'ai une coupe de bière de Paris à gauche, à droite sur ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que Mark Carney, sa grande force, c'est de ne pas être un politicien traditionnel. Un politicien traditionnel ferait exactement ce que tu viens de dire. Il s'en irait à l'élection, il regarderait les sondages, il dirait « Moi, j'y vais, c'est le moment, j'ai besoin d'une majorité. » Rappelez-vous les deux mains sur le volant de Jean Charest en 2008. Ouais. « On est en crise, j'ai besoin d'un mandat fort. » Parfait. Puis honnêtement, ça fait du sens aussi parce que c'est vrai que face à Donald Trump, avec une renégociation de la CEOM qui s'en vient, l'accord de libre-échange, c'est vrai que ça va te prendre les deux mains sur le volant, puis il faut que tu t'assures d'avoir exactement le mandat clair pour aller négocier ça. D'un autre côté, Mark Carney est en train d'obtenir sa majorité juste avec des transferts de conservateurs modérés qui s'en viennent chez les libéraux. Alors, est-ce que vraiment il y a besoin de déclencher une élection ou est-ce que dans le fond, il est quasiment majoritaire, puisqu'on le disait, hein, avec la défection de Matt Gener, il s'est retrouvé à un siège de la majorité. C'est Elizabeth May qui tient en ce moment le gouvernement dans la majorité. Alors moi, je pense que si j'étais lui, je n'irais pas à l'élection maintenant. J'irais peut-être à l'automne. Ça ne change pas, par exemple, la stratégie des conservateurs qui, eux, ont décidé de changer de technique parce qu'ils gagnent la période des questions, mais ça, il n'y a personne qui l'écoute.
Peut-être que tu vas trouver ma question idiote, Victor, mais je me lance quand même. Est-ce pas un avantage actuellement d'être minoritaire pour Mark Carney avec tout ce qui se passe parce que le fait d'être en constante relation avec l'opposition, de ne pas être dans l'obligation et l'affirmation et vous êtes obligé parce qu'on est majoritaire, etc., ça amène un genre de conscience sociale, mais aussi un calme social, de ne pas paraître comme étant dictatorial dans certaines décisions qui pourraient brasser les choses, bien que ça peut lui faire avancer des dossiers plus rapidement d'être majoritaire.
T'as raison, c'est sûr que ça donne une image aussi de quelqu'un qui est capable de concilier avec ses adversaires. Puis ça, c'est toujours positif. Puis il y en a un qui a essayé d'aller chercher une majorité en pleine crise. Je sais pas si vous vous rappelez, il s'appelait Justin Trudeau en 2021. Il a dit « J'ai besoin de mettre les deux mains sur le volant en pleine crise sanitaire ». Il est allé en élection et il s'est retrouvé avec le même résultat qu'avant. Et les gens t'en veulent quand tu fais ça, parce que les gens aiment pas les élections. Je suis sûr que on demande aux auditeurs de nous demander s'ils veulent une élection au printemps ou pas. Je suis sûr qu'on va en avoir plus de 80% qui vont dire « Non, j'en veux pas ». Et ceux qui en veulent, c'est parce qu'ils espèrent faire rentrer Pierre Poilievre ou qui veulent faire tomber le gouvernement. Les gens qui appuient Mark Carney ne veulent pas d'élection, ils veulent juste que ça continue de même. Alors là-dessus, je pense que pour moi, c'est assez clair. Mais je suis prêt à ouvrir le pari de bière avec toi, Jeff, parce que comme je te dis, j'en ai une coupe d'ouvert à gauche, à droite, alors ça en fera une de plus. Mais je veux revenir sur la stratégie de Pierre Poilievre aujourd'hui, parce que il y a un truc là-dedans qui est super important, c'est que Pierre Poilievre s'en va ce matin parler de sa stratégie, ce midi parler de sa stratégie de négociation avec les États-Unis. Et après ça, il s'en va en voyage en Allemagne puis en Europe comme chef d'opposition officielle. C'est son premier voyage comme chef d'opposition officielle. C'est un homme qui n'aime pas sortir du pays.
Attends, t'es en train de me dire que pendant toutes les années, Justin Trudeau, il n'est même pas allé en Europe alors que les gens le voyaient comme le futur premier ministre.
Ben, ma compréhension, puis là, je fais bien attention à ce que je dis parce que je ne veux pas avoir l'air fou, mais ma compréhension, c'est que c'est le premier qui le fait. C'est certainement le premier qui fait dans ce mandat-ci. Maintenant, dans le mandat précédent, à voir, ça reste qu'il y avait une pandémie pendant ce mandat-là. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on voit aussi un changement dans la stratégie conservatrice parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent aller chercher de la crédibilité. Et on va se rappeler d'une chose, on est un entretien chez les conservateurs parce que la dernière élection, les conservateurs l'ont échappé à cause de deux choses. La première, c'est qu'ils n'avaient pas de plan de match clair avec Donald Trump. La deuxième, c'est que Pierre Poilievre n'avait pas d'équipe. Ce matin, on nous présente le plan de match. Ce midi, on présente le plan de match avec les Américains. Parfait, il y en a une de couverte. La deuxième, c'est l'équipe. La troisième, c'est que je pense que la stratégie conservatrice prend en considération qu'il n'y aura pas d'élection à court terme. Donc, il doit aussi aller diversifier parce que là, il est à la période de questions. La période de questions, il est bien bon, mais il n'y a pas l'air d'un premier ministre en attente face au premier ministre qui n'est jamais à la période de questions. Mark Carney est là une fois par semaine au maximum. Et Pierre Poilievre a bien beau gagner la période de questions. Est-ce que vous connaissez un de vos voisins qui s'assoit devant la période de questions à tous les jours, vous? Parce que moi, je l'écoute, mais c'est une maladie que nous sommes très peu à avoir.
qu'est-ce qui lui fait peur, en fait, de ne pas être plus proactif, selon toi? D'être trop proactif?
C'est que d'abord, t'as tout le temps l'air d'être le « angry conservative », le conservateur frustré qui est toujours en train de s'opposer aux idées. T'as pas grand-chose à proposer. Puis l'autre chose, c'est que en termes de notoriété, de diplomatie, tu n'as pas d'envergure internationale. C'est une des grandes forces de Mark Carney. Lorsqu'on fait l'analyse de la popularité de Mark Carney, il y a la crédibilité de l'économiste, le gouverneur de la Banque du Canada, mais on dirait que quand Carney se promène, les gens l'écoutent. Et là, il faut qu'il lutte contre probablement le plus grand discours qu'un premier ministre canadien ait donné depuis Byron Mulroney, soit le discours de Davos de Mark Carney, qui est allé marquer les esprits. Il doit aller chercher des alliés, il doit montrer qu'il est capable d'être un premier ministre d'un pays, parce que sinon, Pierre Poilievre est probablement le meilleur chef d'opposition qu'on ait vu à la Chambre des communes depuis très longtemps. Mais ça fait pas de toi un premier ministre.
Non, en effet, parce que Mark Carney est allé justement chercher des appuis en Europe, en Chine, est en train de négocier avec le Mexique, donc diversifie vraiment ses appuis. On revient au Québec, Victor Henriquez, avec cette guerre ouverte entre le gouvernement de la CAQ et les médecins spécialistes. Je pensais pas voir ça après la façon qu'on a réglé le tout avec les médecins omnipraticiens, c'est-à-dire les médecins de famille. Je te fais entendre François Legault à son arrivée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
600 000 $ par année, moi, je pense que c'est suffisant. Je pense que les Québécois sont d'accord avec moi.
Est-ce que c'est le moment, M. Legault, de dire justement si ça suffit? C'est ça que vous dites ce matin?
Non. Ça suffit, oui.
Et Seigneur, ça suffit! On se croit alors venu au mois de décembre ça quand suffit. La loi spéciale était là, puis Christian Dubé était encore en poste, puis on dirait que François Legault n'a pas donné sa démission. Mais qu'est-ce qui se passe? On a donné un pont d'or aux médecins de famille, on leur a enlevé les conditions, on leur a dit c'est pas grave, 500 000 personnes, ils n'ont pas besoin d'avoir un médecin de famille, ils ont juste besoin d'avoir un rendez-vous. Puis savez-vous quoi? Quand ils vont voir la IPS, l'infirmière praticienne spécialisée, vous chargez un acte, vous autres aussi. Mais là, on part en guerre avec les spécialistes.
Ben, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle comment François Legault, tu l'as entendu penser à la ligne que le journaliste lui a suggérée. Ça fait comme, ben ouais, c'est une bonne idée, ça suffit. C'est bon, je vais apprendre celle-là. Alors, j'ai toujours aimé le naturel de François Legault. Hein. Et c'est le fun à entendre. Puis je riais, puis je me disais, ah, OK, ce naturel-là va peut-être nous manquer. Ça se peut que dans un an, on disait, hey, on s'ennuie de François Legault puis de son authenticité. Alors, oui, sur les spécialistes, je comprends ce que tu me dis. Puis je suis à la même place que toi sur les omnipraticiens. Il y a une chose, moi, qui me frappe, par exemple. Les omnipraticiens, c'est le médecin que toi puis moi, on voit le plus souvent. C'est celui dont on a besoin. C'est celui qu'on veut avoir d'accessible. Le médecin spécialiste, c'est celui qu'on veut jamais voir, qu'on espère ne jamais voir, et c'est le plus riche de la gang. Et là-dessus, je pense que François Legault fait bien de tenir la ligne dure parce qu'il y a un chiffre qui est magique là-dedans. 600 000 par année. Est-ce que tu connais un Québécois de la classe moyenne qui va broyer pour un médecin qui fait 600 000 pièces par année? La réponse est non. Ça n'arrivera pas. Et Dr. Oliva nous est arrivé ce matin en disant « Ouais, on a de l'ouverture à négocier. » Leur demande est à 14,5, le gouvernement est à 11. Mais ultimement, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous autres qui payent. Puis à 600 000 par année, est-ce que vous pensez que les Québécois vont aller se battre pour les spécialistes? Mm-hmm. On est prêt à se battre pour les médecins de famille parce que c'était les enfants pauvres de ce domaine médical. Mais je pense qu'on est prêt à se battre pour les spécialistes, surtout à ce prix-là.
Oui, en effet. Puis, il y avait un très grand écart de rémunération entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. On a donné 17 % aux médecins de famille. C'est pour ça qu'on donne 11 % aux spécialistes pour réduire cet écart-là. Mm-hmm. Mais tu as parlé du docteur Vincent Oliva, justement, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je te fais entendre ce qu'il a dit en point de presse aujourd'hui.
Notre lecture, c'est que le gouvernement négocie en matamore. Puis je comprends que le terme est peut-être un petit peu fort, mais en gros, ce qu'il veut, c'est imposer ses conditions. Et lorsqu'on ne les accepte pas, bien, on ne discute plus. Parce qu'actuellement, vous pouvez penser qu'on est en négociation, mais ça fait un mois qu'il n'y a pas de discussion de négociation, il n'y a pas de table.
Victor, tu es un spécialiste en communication. T'entends le gouvernement négocier en matamore, il dicte, puis d'un autre côté, t'entends le premier ministre dire 600 000, ça suffit. C'est drôle, mais... Dis-moi mes conditions de travail si tu me donnes 600 000 $ par année.
Je suis à la même place que toi, je vais le prendre, mais je veux juste. Puis ça s'applique aux deux en passant. Quand François Legault dit ça suffit et qu'il parle du 600 000, il pense à ce que nous, on paye. Mais quand Dr. Oliva a dit que le gouvernement négocie en matamore, il pense au gouvernement. Moi, j'inviterais, puis je respecte les gens de communication. Il y a des gens de communication derrière la Fédération des médecins spécialistes, des gens intelligents qui pensent à tout ça, mais qui ont le grand défi d'allier ce que les médecins spécialistes veulent et ce que la communication nécessite. Je les invite juste à faire une chose. Il faut qu'on parle aux gens. Et Dr. Oliva, j'ai jamais l'impression qu'il me parle à moi. Je comprends qu'il parle à ses membres. Je comprends qu'il définit le gouvernement. Mais moi, je veux savoir en quoi une augmentation à, mettons, 13 % va les aider à me faire du bien comme citoyen. En quoi cette augmentation-là va me permettre comme citoyen d'avoir une meilleure santé, un meilleur système de santé, plus efficace, plus ouvert, plus accessible. Si tu ne me donnes pas cette réponse-là, je ne te suivrai pas. Et c'est là où est-ce que la communication, il faut faire bien attention à qui on s'adresse. Lorsqu'on négocie avec le gouvernement, on négocie pas avec le gouvernement seulement, on négocie avec tous les citoyens, surtout à 8 mois d'une élection.
Je m'explique mal à quel point on est capable, puis c'est peut-être la beauté de la communication et donc son côté sombre aussi, à quel point on est capable de changer ce qu'on pense ou ce qu'on voit selon le pouls entre une spécialité et le gouvernement. Je m'explique. Oui, il y a eu cette manœuvre-là du gouvernement d'aller taper sur la tête des médecins spécialistes. À un moment donné, ça n'a pas passé parce qu'on a vu qu'il y avait des coupures qui étaient quand même importantes pour eux. Et ensuite, on a réussi à remettre le public derrière le gouvernement dans les derniers jours, du moins, selon ce que je constate, par rapport au fait qu'ils sont chanceux et ils amassent de l'argent quand d'autres travaillent aussi. Hein. On a vu ça, là, qu'ils peuvent toucher des primes quand ils ne travaillent pas. C'est fou quand même l'opinion publique qui est malléable comme ça, non?
Oui, il y a une partie qui est ça, mais justement, c'est là où il faut portionner l'opinion publique puis se rendre compte sur quoi est-ce que l'opinion publique appuyait les médecins. Rappelez-vous, lorsque les omnipraticiens sont sortis, notamment les femmes médecins qui nous ont parlé de leur réalité, elles nous ont parlé du fait que justement, ça allait baisser leur salaire de 25 % dans certains cas. On est venu humaniser la situation, puis on est surtout venu de nous dire du côté des omnipraticiens ce que ça pouvait provoquer comme enjeu pour nous, comme patients. C'est là où est-ce que les Québécois ont commencé à virer, à dire « Attention, moi, je ne veux pas perdre mon médecin de famille, je ne veux pas ne plus avoir de rendez-vous, je ne veux pas que mon médecin soit moins bien traité, je ne veux pas que mon médecin ait moins le goût de pratiquer ou qu'il s'en aille en Ontario. » C'est là qu'on a marqué des points, parce qu'on nous a parlé. Dans le cas des spécialistes, je n'ai pas l'impression qu'on nous parle. Et c'est pour ça que, moi, je dis l'opinion publique, oui, elle a le droit de changer d'opinion et elle se positionne différemment à travers le temps. Mais c'est surtout que l'opinion publique, elle donne son opinion sur la base de ce que tu lui dis et ce que tu lui expliques pour lui. Ça s'appelle la réciprocité. Et si je ne sais pas ce qu'il y a pour moi dans ton discours, à un moment donné, je n'ai pas le temps de t'écouter.
En effet, Victor, chicane entre Éric Girard et Paul-Saint-Pierre Plamondon. On dit, y a une augmentation des intérêts, c'est à cause du référendum. PSPP dit, c'est pas à cause du référendum, c'est à cause du déficit. On va en parler tout à l'heure en fin d'émission avec notre économiste Gabriel Giguère. Mais moi, je veux t'entendre, Victor Henriquez, l'expert en politique. Est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon est en train de reculer sur le référendum?
Québécois, à juste titre, regarde ce qui se passe au sud de la frontière et constate des choses qui ne sont pas normales et ont des craintes par rapport à ça. Mes adversaires veulent en profiter en disant que ce n'est pas le temps de faire un référendum comme si ça avait lieu la semaine prochaine. Donc, c'est important de réitérer que c'est quelque part dans une fenêtre de 4 ans et dans ces 4 années-là, il y a plusieurs choses qui vont évoluer, qui vont changer.
Victor Henriquez, on parlait d'un premier mandat, là on parle d'une fenêtre de 4 ans. T'es un spécialiste en communication. On est-tu en train d'embrouiller le message un peu?
Tu l'entends pas le camion qui recule? Bip, bip, bip. Moi je l'entends all the way. Le camion il recule en ce moment. Puis il y a du monde au PQ qui veulent avoir une élection. Puis il y a une chose qu'on oublie souvent. Les péquistes ne veulent pas faire un référendum. Les péquistes veulent gagner le troisième référendum. Et ça c'est deux mondes complètement différents. Et je comprends que du côté du Parti québécois, on a promis un référendum. Puis tu sais quoi? Je ne serai jamais de ceux qui va critiquer le désir de certains Québécois d'avoir la souveraineté du Québec. C'est un désir qui est tout à fait louable. Mais timing is everything. Et dans ce cas-ci, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de façon très lucide, se rend bien compte que les Québécois n'ont pas d'appétit pour de l'instabilité. Et les Québécois savent qu'un référendum, ça vient avec une instabilité. J'ai bien hâte d'entendre tantôt Gabriel nous parler de la question économique. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, ce qu'on m'a expliqué en passant rapidement, c'est que des obligations, ça se négocie sur 10 ans. Alors, si dans 10 ans, il y a un risque supplémentaire que le Québec, par exemple, n'ait plus la même situation dans le Canada, le coût de tes obligations doit augmenter, donc ton coût d'intérêt vient d'augmenter et ton instabilité augmente. Donc, est-ce que c'est 0,5 ou plus? Peu importe, ça va te coûter plus cher pour ta dette. Ça, c'est ce qu'on m'explique, les économistes m'expliquent à moi, mais je vais entendre tantôt Gabriel. Il y a une chose, par exemple, politiquement parlant, ce qu'Éric Girard a fait, c'est de voir la brèche puis de rentrer dedans. Parce qu'à partir du moment où Paul-Saint-Pierre Plamondon commence à nous parler de consultation publique au lieu de parler de référendum, parle de différentes étapes, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pendant les 4 prochaines années, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est une mauvaise nouvelle pour le PQ. Les Québécois n'aiment pas l'instabilité. Les Québécois ont toujours donné des gouvernements économiques de centre-droite lorsqu'il y avait de l'instabilité, parce que les gens n'en veulent pas vivre les conséquences économiques d'une instabilité. Et ce qu'Éric Girard a fait, c'est de rentrer ça dans la tête du public. Il y a un prix à payer à la menace référendaire, il y a un prix à payer à l'instabilité référendaire, et il y a un prix à payer au fait que Paul-Saint-Pierre Plamondon est incapable de nous dire à quel moment il ferait un référendum. Et ça, ça va le suivre jusqu'à l'élection. Et là, il n'aime pas Éric Girard, mais attends de voir Christine Fréchette puis Charles Millard cogner sur le même clou.
Et ça va donner quel spectacle, ça, en automne, si on essaie de se transposer?
Ça va être un show absolument incroyable. La beauté de la chose, c'est que les Québécois sont intelligents, ils vont faire le choix. Il y a un scénario qu'on ne regarde pas beaucoup, mais moi, je pense que le scénario d'un gouvernement péquiste minoritaire est très, très, très plausible.
C'est ma prédiction. Parce que dans un...
C'est ta prédiction, bravo.
Ben oui, parce c'est que ma prédiction. Christine Fréchette avec la CAQ va aller chercher une coupe de comté puis ça va amener ça minoritaire.
Tu sais, une dizaine de conservateurs, une dizaine de comtés caquistes, 25 à 35 libéraux, puis tout d'un coup, tu te retrouves avec un gouvernement péquiste majoritaire qui n'a pas les mains libres pour faire un référendum, mais qui vient gouverner parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a marqué des points auprès de la population. Je trouve que c'est un peu le scénario du moins pire des scénarios pour le PQ. Parce que le pire des scénarios, c'est que Charles Millard se fasse connaître du bon bord ou que Christine Fréchette prenne le dessus après la chefferie puis qu'elle fasse oublier les années François Legault et qu'il perde cette élection-là simplement parce que les Québécois vont dire « Pas tout de suite, on n'est pas prêt avec ton instabilité. »
Victor, en une minute, j'ai regardé la deuxième portion du sondage Palace comme toi, ça portait sur Christine Fréchette et Bernard Drainville. Est-ce que j'analyse adéquatement quand je me dis que la CAQ a vraiment un devoir de faire connaître Christine Fréchette? 32 % des gens sont très ou plutôt défavorables à elle. Seulement 26 % des gens sont très ou plutôt favorables. Et 39 % des gens ont une opinion neutre. Quand le défavorable est plus fort que le favorable, c'est dur de penser que la CAQ va renverser la vapeur.
100% et surtout quand le favorable a baissé particulièrement par rapport au dernier sondage, je ne me trompe pas, ça a baissé de quelques points.
En effet.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que les attaques de Bernard Drainville sur Christine Fréchette, ça fait mal, ça marche. Ce que ça veut aussi dire, c'est que les candidats se sont engagés cette semaine à ne pas faire d'élection avant le mois d'octobre. Vous savez pourquoi? Parce que Christine Fréchette, elle a besoin de 5 mois pour se faire connaître et faire oublier les étiquettes que Bernard Drinville lui a collées sur le dos. Mm-hmm. Alors, vous allez voir une Christine Fréchette qui va chercher à faire oublier François Legault, à faire oublier les étiquettes de Bernard Drinville. Comment est-ce qu'elle va faire ce virage-là? Moi, je suis convaincu que son équipe se prépare à cette course qui va durer du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Ça va s'appeler la course à la notoriété, à la redéfinition de la chef.
Et donc, on n'est pas dans les enjeux. On n'est quand même pas dans les enjeux, par exemple.
Mais la vérité, c'est qu'on n'est plus dans les enjeux à partir du moment où est-ce qu'on a des élections à date fixe. Il faut qu'on se rappelle, c'est seulement la deuxième élection à date fixe. Et ce que ça fait, c'est que les périodes préélectorales commencent beaucoup plus tôt. Mais une chose qui est claire, c'est que la prochaine année en politique sera extrêmement intéressante à suivre.
Et on va continuer d'en jaser avec toi, Victor Henriquez, sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci beaucoup pour ta collaboration dans le caucus aujourd'hui, en ce jeudi 26 février.
Merci, Agen.
Salut, Victor. C'était Victor Henriquez en remplacement d'Antonine Iaccarini dans le caucus, un segment qui se déroule à compter de 12h05 à chaque jour, du lundi au jeudi, dans l'émission On en jase. Courte pause. Par la suite, Mathias Turcotte vient s'installer. Il va nous parler de cette merde dans le fleuve, Pascal. Je pensais pas qu'en 2026, on parlera encore de ça.
Mais je pensais qu'on avait été assez, comment dire, traumatisé d'eux. Mais en même temps, quand on voit les installations, on peut pas inventer. On n'est pas capable
exactement
de le traiter, le 15% supplémentaire de merde.
L'usine de traitement des eaux à Saint-Nicolas
sur l'heure du midi
envoie du caca ben juste en masse. 15% du caca dans les toilettes de Lévis se retrouve dans le fleuve. On parle de ceci avec Mathias Turcotte. Dans un instant, il a assisté au point de presse de Stephen Blainey, nouveau maire de Lévis, qui est pris avec cette tonne de merde-là.
Jusqu'à 15.